Frères et sœurs, en première lecture, nous avons entendu un extrait du livre de Jonas. Vous connaissez l'histoire du prophète Jonas, avec notamment cet épisode où il est avalé par un énorme poisson. Et si vous connaissez l'histoire de Jonas, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a une opposition entre les disciples de Jésus qui se mettent dans l'Évangile immédiatement en route pour être pêcheurs d'hommes, et Jonas lui-même, qui, entendant la parole de Dieu, s'était mis immédiatement en route pour aller dans la direction opposée et fuir la mission. Parce que ce que nous entendions en première lecture, c'était simplement, on pourrait dire, la deuxième étape de l'appel de Jonas. Quand il l'avait reçu pour la première fois, cette parole de Dieu, cette parole qui l'envoyait à Ninive, c'est en, à peu près en Irak actuel, donc plein Est, Jonas s'embarque immédiatement pour Tarsis, en Espagne, donc plein ouest. Il a fallu l'épisode de la tempête et de ce poisson qui l'avale pour que Jonas accepte la mission que Dieu lui présentait. Par ailleurs, Jonas ne souhaitait pas être pêcheur d'hommes. En fait, il aurait préféré que Dieu détruisît Ninive et ses habitants, parce qu'il avait proclamé « Encore 40 jours, et Ninive sera », littéralement, le terme, c'est « retourner ». Alors « retourner », ça peut vouloir dire « retourner », et ça peut vouloir dire « détruite », mise sans dessus-dessous. Et voilà que le Seigneur s'est contenté du retournement des cœurs, sans exiger l'anéantissement de la ville. Et dans la suite du livre de Jonas, on voit que Jonas est très en colère. Il ne goûte pas du tout à cette miséricorde de Dieu. Nous nous rendons compte qu'il n'est pas si simple de répondre à l'appel de Jésus à être pêcheur d'hommes. Il n'est pas si simple de répondre à l'appel de Jésus d'être pêcheur d'hommes. Et je voudrais aujourd'hui me pencher sur un aspect particulier de cette mission de pêcheur d'hommes. Être pêcheur d'hommes dans le cadre du travail pour l'unité des chrétiens, puisque nous sommes au cœur de cette semaine de l'unité des chrétiens. S'il a fallu que Jonas fût repêché des eaux pour accepter la mission, il semblerait que nous aussi, nous ayons besoin d'être libérés d'un grand poisson. Un grand poisson de nos peurs, de nos préjugés, de nos manques d'espérance, pour que nous nous attelions à cette tâche. Il arrive que nous n'ayons pas de contact avec nos frères chrétiens de confessions différentes, et du coup, nous demeurons dans une profonde indifférence. Ils existent ou ils n'existent pas, finalement, ça ne change pas vraiment mon quotidien. Et donc, dois-je m'intéresser à ce qu'ils font ? Ben, je n'en ai pas l'impression parce que je n'en vois pas l'utilité. Ou parfois, nous avons des contacts, mais voilà que les contacts ont pu être marqués par une certaine hostilité, une agressivité. Je me souviens d'un séminariste lituanien qui avait été marqué un jour dans son village où il y avait aussi une église orthodoxe, et le prêtre orthodoxe du parvis de l'église qui l'interpellait en lui disant « Tous les catholiques sont des hérétiques et ils iront tous en enfer ». Ça rend difficile le dialogue. On voit que l'agressivité est souvent nourrie de peur et d'ignorance. Je voudrais vous donner un petit témoignage personnel. Lorsque j'étais jeune vicaire à Notre-Dame de Grâce de Passy, j'étais envoyé prêcher pour l'unité des chrétiens à la paroisse protestante de l'Annonciation, juste à côté. Et la première fois que j'y étais envoyé, j'avais vraiment l'impression que j'allais être la brebis au milieu des loups, ou bien Jésus, tel Jésus dans la synagogue à Capharnaüm, j'allais avoir droit au démoniaque qui vocifère et prend parti. J'avais l'impression qu'il fallait que je marque une distance prudente par rapport aux rites étranges auxquels j'allais être mêlé ou du moins rendu témoin. Et je ne sais pas si j'aurais été plus ou moins à l'aise en allant à une célébration vaudou. Or, ce qu'il me fut donné de voir fut une communauté célébrant le mystère pascal de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité pour notre salut. Ce n'était pas la messe, non, mais il y avait une vraie confession de foi de la mort et de la résurrection de Jésus, le Verbe fait chair, le Sauveur. Assurément, il n'y avait pas de transsubstantiation, Mais il y avait un véritable acte de foi et d'espérance. Et cet acte méritait d'être vu. La première chose à faire dans ce travail pour l'unité des chrétiens est de voir, d'être capable de voir cette confession du Christ mort et ressuscité pour nous, lui le Fils du Père qui a assumé notre nature. Avant même de parler de nos divisions, avant même de parler de nos différences qui sont réelles, nous sommes appelés à voir ce qui nous unit. Le 3 juillet 2016, à la suite d'une vague d'attentats, d'assassinats de chrétiens au Proche-Orient, le pape François déclarait « Si l'ennemi nous unit dans la mort, qui sommes-nous pour nous diviser dans la vie ? Nous savons que lorsqu'il tue un chrétien, ceux qui haïssent Jésus-Christ ne lui demandent pas « Tu es catholique, tu es luthérien, tu es orthodoxe, tu es évangélique, tu es chrétien » et il lui coupe la tête. Cette unité est pourtant bien connue des ennemis de Dieu. Ceux qui haïssent Jésus-Christ ne se trompent pas. Ils savent que nous avons la même racine qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ne demandent pas si la personne est luthérienne, catholique, orthodoxe, avant de lui couper la tête. Nous sommes appelés donc comme première étape à reconnaître ce qui nous unit et dans ce qui nous unit l'action de l'Esprit-Saint. Souvenons-nous de ce que dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit-Saint. Personne parlant avec l'Esprit-Saint ne dit anathème à Jésus. On ne peut donc pas livrer sa vie pour le Christ sans être rempli de l'Esprit-Saint et donc sanctifié. Donc nous sommes appelés à voir, parce que ça, j'allais dire, cela nous l'a été imposé, qu'il y a une unité des chrétiens qui existe dans le martyr du sang et qui est une œuvre de l'Esprit-Saint. L'Esprit a permis que ce témoignage fût rendu jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas être aveugles sur l'Esprit qui travaille dans notre communauté, assurément, mais aussi dans les autres communautés chrétiennes où l'on observe des martyrs de Jésus. Et du coup, nous comprenons que cette démarche ne se fonde pas d'abord sur la volonté des hommes ou leurs atomes crochus. Les martyrs de Jésus, qui sont l'œuvre de l'Esprit-Saint, comme autrefois la conversion des Ninivites était l'œuvre de l'Esprit-Saint, c'est ça qui nous oblige à aller vers l'autre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, je ne peux pas ne pas le voir. Est-ce qu'il est si difficile de s'émerveiller de l'amour du Christ qui peut exister chez l'autre ? Est-ce si difficile de s'émerveiller de cet amour du Christ sans entrer dans un esprit de compétition ? On peut s'émerveiller de ce que d'autres aiment aussi le Christ Jésus, sans avoir à trouver un argument pour dire « je suis meilleur que toi ». Si nous voulons avancer, nous avons besoin de cette base d'amitié commune, et lorsque nous nous réunissons, de dire « nous cherchons la vérité ensemble qui est le Christ ». Vous savez, quand on discute, il peut y avoir deux attitudes fondamentales qui vont donner des résultats très différents. Soit vous discutez avec quelqu'un parce que vous cherchez avec lui la vérité, et vous ne dites pas que vous ignorez tout de la vérité, sinon vous ne parleriez pas, mais en même temps, le but de la discussion n'est pas que l'un finisse par dire devant l'autre « en fait, toi, tu as raison ». Le but, c'est que nous avancions ensemble vers le Christ qui est la plénitude de la vérité, que nous devenions plus fidèles chacun au Christ qui est la vérité. Et de fait, alors, dans notre discussion, après un certain temps, il est vrai, nous nous heurterons à des impasses. Et ce sera une lucidité. Il y a des choses qui nous séparent. Mais au lieu de nous plonger simplement dans l'amertume et de dire « mes arguments ne vont pas jusqu'au bout », c'est un autre chemin qui s'ouvre à nous, c'est le chemin de la prière. Parce que nous nous rendons compte que nos arguments ne suffisent pas. Seigneur, nous avons besoin que tu nous fasses le don de l'unité. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. mais nous savons que tu veux nous accorder ce don, et donc nous te le demandons, nous ouvrons nos cœurs à ce don que tu veux préparer pour nous. Dans ce cas-là, les impasses, qui sont douloureuses, il est vrai, les impasses deviennent une motivation pour être fidèle à cette prière et dire « Seigneur, ce n'est pas possible que nous ne soyons pas plus unis. » Il y avait cette belle remarque d'un des, je dirais, des piliers de ce travail pour l'unité des chrétiens qui disait « Nos divisions, les murs de nos divisions ne montent pas jusqu'au ciel. » Eh bien, que le Seigneur nous fasse le don de son unité, demandons-le, osons le demander, le cœur souffrant de la peine de la division. Et peut-être serait-il intéressant, lorsque nous rencontrons des chrétiens d'une autre confession, de la même façon que ça peut être intéressant, même entre nous, c'est de demander à l'autre, qu'est-ce qui te réjouit dans ta célébration, dans la façon dont tu célèbres le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus? Là encore, pas pour dans un esprit pour dire « moi j'ai peut-être mieux », mais de comprendre qu'est-ce qui te nourrit dans ta foi. Parce que ce sera peut-être l'occasion pour nous de découvrir quelque chose de nouveau ou de redécouvrir peut-être un aspect qui existe aussi dans notre tradition, mais que nous n'avions pas vraiment regardé ou exploré. Cette interrogation, qu'est-ce que tu trouves de beau dans ta tradition? Qu'est-ce qui te fortifie? Seigneur, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à l'image de Jonas qui devient porteur de ta parole quand il fut libéré du poisson, libère-nous du poisson de l'indifférence et du préjugé. Que nous sachions reconnaître l'œuvre de l'Esprit-Saint dans notre communauté comme dans les autres communautés chrétiennes qui confessent la mort et la résurrection de ton Fils Jésus. Amen.